18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis auditeurs, partout en France, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, vous êtes en vacances et on vous accompagne malgré tout. L'application est là pour vous. 01 53 48 3000. Ça, c'est votre number, votre numéro qui ne vous quitte jamais en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous, il vous habite. Alors, au sommaire de cette émission, vous savez, dans Les Informés, justement, eh bien, ce qui a retenu notre attention, tout d'abord, on parlera d'un bel ouvrage. Comment peut-on être berbère? Amnésie, renaissance, soulèvement, aux éditions Rive Neuve. Ça, on va en parler avec un historien qui est spécialiste du monde arabe, qui s'appelle Hamid Chabani. Tout à l'heure, justement, il sera avec nous. Au sommaire de cette émission, le Quad Neuf, vous le savez, avec le docteur Majid Sioussine, justement, il viendra nous livrer son regard sur la question de la diversité. Que se passe-t-il? Il y a des jingles qui partent dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? La machine a décidé de se lâcher. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Gardons le tapis musical. Les trois sujets qui ont retenu notre attention, notamment, vous le savez, on va parler avec les débattants influenceurs tout à l'heure. Inflation, parce que les prix, sachez-le, ça flambe dans tous les sens. On parle d'aliments, on va parler de notre quotidien qui nous concerne. Quand on a, par exemple, allez, je vous donne un exemple, hein, des pâtes qui montent plus 63%, vous vous rendez compte, c'est où va-t-on? Bref, nous allons en parler tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons aussi, vous savez, eh bien, d'un autre sujet qui nous concerne tous, c'est celui de la rencontre à l'Élysée. Pourquoi les relations sont tendues entre l'Allemagne et la France? Emmanuel Macron a-t-il convaincu le chancelier? On en parlera tout à l'heure avec nos débattants influenceurs. On parlera aussi, vous savez quoi, de cette nomination. Rishi Sunak, d'origine indienne, tout premier ministre anglais, justement, entre espoir, enjeu, symbole, on en parlera tout à l'heure. Ça aussi, en France, est-ce possible, évidemment, d'avoir un premier ministre issu de la représentativité, issu de la diversité, en quelque sorte? S'il nous reste du temps, on parlera aussi de Kherson avec cet affrontement militaire, cette bataille et puis cette guerre en Ukraine. Quel scénario possible dans les prochains jours, les prochaines semaines? Voilà. Et puis le 01 53 48 3000, vous savez, j'ouvrirai à l'antenne tout à l'heure. Tout simplement, je vous poserai la question. Comme vous avez été nombreux hier, vous m'avez demandé de remettre ça. Aujourd'hui, peut-on se faire justice soi-même? Tiens, on va essayer même de retrouver Anis, le père, qui s'est fait justice lui-même, justement, parce qu'on a touché sa fille, un adolescent de 16 ans a touché sa fille, donc en pleine nuit, entre 3h et 4h du matin, sa fille a 6 ans à peine, vous vous rendez compte? Effectivement, bon. 01 53 48 3000 tout à l'heure, ça c'est le standard qui sera ouvert dans une poignée de minutes. Allez, les informer, c'est tout de suite, et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
C'est parti pour l'interview du jour, justement.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec Hamid Chabani. Bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ça va, merci, vous?
Vous êtes, justement, historien. D'accord, spécialiste, oui, du monde arabe. Vous êtes aussi un spécialiste de tout ce qui est du monde amazigh, c'est ça?
Plus exactement, effectivement, spécialiste du monde amazigh contemporain.
Contemporain, absolument. Vous avez été aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Printemps noir de Kabylie de 2001.
Mmh, c'est bien ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Vous êtes chercheur, hein?
Oui, je travaille un peu sur ces sujets de l'Afrique du Nord qui ont tendance à être oubliés, mal compris, et donc c'est un sujet sociétal qui m'intéresse énormément.
Vous êtes conférencier, formateur notamment, et vous avez écrit un livre, c'est pour la raison pour laquelle je vous souhaitais en parler avec vous. Comment peut-on être berbère? Amnésie, renaissance, soulèvement, sous la direction de Pierre Vermeuren aux éditions Rive Neuve. Comment ça s'est passé? Parce que c'est plusieurs chercheurs justement qui se sont associés pour mettre en œuvre justement cet ouvrage.
Exactement. Donc effectivement, c'est un ouvrage qui a été dirigé par Pierre Vermeuren, professeur d'histoire des sociétés arabes et berbères à l'Université de Paris 1. Et en fait, il fait suite à un colloque que nous avions organisé en 2015, le 19 et le 20 mai, qui portait la question berbère après la colonisation, donc amnésie, renaissance, soulèvement, avec un certain nombre de chercheurs.
Oui.
Et l'ouvrage est sorti en juin dernier, en 2022, avec moult péripéties, mais il est enfin sorti.
Il est beau l'ouvrage, très très beau, je l'ai lu, j'ai pris le temps. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur la berbérité, notamment. Les autres chercheurs, vos collègues justement, c'est aussi des spécialistes de la question du berbère à Mazir ?
Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier ouvrage collectif qui est international, parce que vous avez des chercheurs américains comme Catherine Hoffman, des chercheurs algériens, marocains, français, espagnols, italiens, suisses, qui ont travaillé sur ces sujets. Et du coup, on a un panel, en fait, sur la question berbère, parce que le monde berbère est large, il ne s'arrête pas qu'à l'Algérie. C'est là où on entend plus souvent parler, ou encore le Maroc, mais il y a aussi d'autres pays qui sont concernés par cette question. Et là, pour le coup, c'est la première fois qu'on réalise un ouvrage collectif qui est un outil aussi qui pourra permettre aux jeunes chercheurs de pouvoir l'utiliser dans le cadre de leur recherche, mais c'est aussi le premier outil qui permet d'expliquer ce qu'est finalement ce qu'est cette question berbère.
Justement, Hamid, vous, conférencier, monsieur le spécialiste, justement, dans cet ouvrage, on va en parler tout de suite. Il y a plusieurs chapitres qui m'ont interpellé. Notamment, page 43, vous dites comment la France politique et intellectuelle, après avoir utilisé les berbères, a tenté de les oublier dans l'amnésie post-coloniale. Pourquoi vous avez voulu consacrer ce chapitre, justement, à cette question ?
Mais parce que il faut savoir qu'au moment des avènements de l'indépendance des États nord-africains, la question berbère a été totalement faite effacer pour des raisons d'abord géopolitiques, parce que à ce moment-là, avant les indépendances, mais surtout dans les années 45, on a la naissance au Caire de la Ligue arabe, par exemple, où on va voir les nationalistes nord-africains qui sont à ce moment-là en lutte contre le colonialisme, qui vont chercher de l'aide, en fait. Et la contrepartie, c'est que cette Ligue arabe, en fait, va intégrer ce qu'on appelle un bureau du Maghreb arabe. Et à partir des indépendances, on voit que la question berbère, en fait, elle est totalement effacée et elle disparaît. Elle disparaît et puis elle est alimentée de stéréotypes qui sont créés d'abord dans le cadre de la colonisation française, dans un premier temps, mais aussi au moment des indépendances des États coloniaux, où, en fait, la question berbère va vite devenir un élément problématique, en fait, à l'unité de la nation, alors que ce n'était pas le cas du tout auparavant, et ce n'est pas la question.
Alors, justement, la question, vous avez cité tout à l'heure l'Algérie, le Maroc, qui sont étroitement liés sur la question du Amazir, la question de la berbérité. Alors, l'arabisation, justement, horizon commun des États depuis les indépendances. En gros, vous dites l'Algérie, le Maroc, la nouvelle politique berbère. On est en pleine dent depuis, effectivement, leur indépendance. Les États nord-africains, vous les avez cités tout à l'heure, de la Libye jusqu'au Maroc, et notamment, ce qui a retenu votre attention dans ce livre, l'Algérie et le Maroc, nouvelle politique commune berbère.
Oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer... Alors, au moment des indépendances, on va tout faire pour faire disparaître cet élément berbère. Pourquoi ? Parce que il y a un vieux mythe qui dit que la question berbère, en fait, nuit à l'unité nationale. Il se trouve que les modèles algériens et marocains d'État, en fait, reposent sur des modèles jacobins français, où tout est centralisé. En fait, toutes les autres formes de culture existantes n'ont pas lieu d'être. On verra que, en fait, au moment des indépendances, on va totalement effacer ces questions. En même temps, on va les faire ressurgir. Parce qu'à partir des années 2000, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc et l'Algérie vont commencer à enfin reconnaître cette question, cette langue, comme étant un élément national et officiel, ce qui est tout à fait nouveau. Donc on voit bien que sur cette question, en fait, les États-nations avancent, reculent, donc il y a beaucoup d'évolution.
L'Algérie, vous le dites notamment, et le Maroc, qui comptent des populations berbérophones considérables, en mesure de remettre en cause les équilibres politiques globaux de ces pays, voire leur intégrité, vous dites ça, ont progressivement adopté depuis 1990 un nouveau mode de gestion, justement, la question berbère, avec des chronologies. Où en est-on aujourd'hui, justement, sur la question berbère, quand on pense à ces deux pays, le Maroc et l'Algérie, justement ? Vous qui êtes spécialiste sur...
Ça va dépendre de l'humeur, en fait.
Oui.
Si je peux me permettre.
C'est-à-dire question qui vous fait sourire, je vois.
Oui, parce que c'est souvent utilisé comme un arbitrage politique, la question berbère dans ces États. Parfois, on l'utilise, parfois, on la met au goût du jour parce que ça permet à un moment donné d'avoir des débats qui n'ont pas lieu d'être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question berbère, elle émerge d'abord sur l'espace public, en fait, dans les années 80 en Algérie, notamment en Kabylie, avec le printemps berbère.
Mmh. Mais d'ailleurs, vous... fois... effectivement, ouais. Oui.
Pardonnez-moi. Et à chaque fois que des manifestations, en fait, sur cette question berbère qui auront lieu, en fait, en Algérie d'abord et ensuite au Maroc, à chaque fois, le pouvoir politique va lâcher du lest. Mmh. Et depuis quelques années, on voit bien qu'il y a des évolutions, il y a des changements, et parfois positives et parfois négatives.
Vous le dites d'ailleurs, page 173, vous dites le printemps berbère, la date du 20 avril, il faut le préciser, est la date où l'assaut des forces spéciales de sécurité, ce qu'on appelle le CNS, a été donné à 5h du matin. Et vous racontez évidemment toute l'histoire, vous remontez, vous... Enfin, c'est tout un chapitre d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est historique justement quand on pense... au printemps berbère, Hamid Chabani?
Alors, c'est historique, oui, parce que la question, elle est enfouie. La question berbère, à ce moment-là, elle est clandestine, en fait, en Algérie. Elle est interdite, on n'a pas le droit de parler la langue. Il y a des documents qui sont diffusés en cachette, etc., sont imprimés en cachette. Et donc, ce chapitre, en fait, a été écrit et rédigé par Saïd Douman. Et il explique, effectivement, qu'il y a une résurgence à ce moment-là. Et la question berbère, notamment à travers la Kabylie, en fait, émerge. Et c'est un moment historique parce qu'on a tenté à ce moment-là de les faire disparaître. Et là, les forces de l'histoire, hein, c'est souvent comme ça, en fait. L'histoire du temps long, l'histoire des civilisations, bah, revient toujours par... on fait sortir par la porte et ça revient toujours par quelque part. Donc,
oui, parce qu'en plus, vous êtes factuel, parce que vous revenez sur des dates, c'est assez factuel, hein, dans, évidemment, assez bien étayé, hein, votre ouvrage, parce que vous revenez aussi sur l'histoire précise, hein, chapitre.
Oui, parce que, bon, encore une fois, je ne l'ai pas écrit tout seul, cet ouvrage, il y a un certain nombre de chercheurs, et là, pour le coup, c'est Saïd Douman qui travaille sur 1980, mais il est intéressant parce qu'il donne des faits jour par jour, date par date, il explique, hein, qu'en fait, on veut interdire la conférence de Mouloud Mamri sur la question de la poésie kabyle, et ça déclenche en fait une vague d'indignation dans les milieux universitaires, et on a parallèlement une vague de répression. La police, en fait, va déloger les étudiants des universités, vont les frapper, vont les jeter en prison, alors qu'il n'y avait pas de raison... je dirais politique sur le sujet. En fait, on voulait Mouloud Mamri, qui est l'une des personnalités qui a travaillé sur ces sujets, on voulait interdire de lui prendre la parole. Et en fait, ce qui est intéressant, 1980, c'est un moment fort pour l'ensemble du monde berbère. Parce que ce soit au Maroc, que ce soit au Mali, que ce soit en Tunisie ou en Libye, ou encore en Mauritanie, c'est un élément fondateur, en fait, des revendications.
Des revendications. D'ailleurs, vous parlez, vous dites qu'il y a une figure importante, vous dites la figure d'Abdelkrim dans la mémoire d'Erifin.
Oui, Abdelkrim El-Khattabi dans la mémoire d'Erifin et dans la mémoire du monde berbère est connu parce que c'est
les Erifin, rappelons-le à nos auditeurs, c'est les berbères du nord du Maroc.
Exactement, du nord du Maroc. Et en fait, il faut le savoir que Abdelkrim El-Khattabi a tenu tête de 1921 à 1927, à la fois aux Français et aux Espagnols, à la fois au futur maréchal Pétain et au futur général Franco, qui étaient des jeunes militaires français-espagnols. Et en fait, c'est une première guerre anticoloniale. Et on utilise en plus pour la première fois des éléments chimiques et toxiques, le gaz moutarde qu'on balance en fait sur la région. Et Abdelkrim El-Khattabi, en fait, reste un référent en termes de guerre anticoloniale.
Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, justement, concernant ce bel ouvrage? Franchement, je vous dis bravo, parce que il est assez bien fouillé, il est chiffré, il est factuel, il nous plonge dans l'histoire. Comment peut-on être berbère? Amnésie, Renaissance, Soulèvement, aux éditions Rinneuf, justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, mon cher Hamid Chabani?
D'une phrase, je remercierai d'abord Pierre Vermeeren, qui est à la tête de toute cette, qui a été directeur de cet ouvrage. Et d'une phrase surtout, achetez-le, parce que c'est le premier
ouvrage collectif. C'est vrai, il faut aller le soutenir.
Collectif. Voilà, c'est le premier ouvrage collectif qui traite de ces questions dans sa globalité.
Premier ouvrage.
Voilà, qui ne s'intéresse pas qu'à un pays, avec un certain nombre de chercheurs internationaux. issu du colloque de la Sorbonne qui a eu lieu en 2015. Et c'est un moyen, en fait, de découvrir le monde berbère à travers une bibliographie qui est riche, qui permet d'avoir quelques façons de décoder, en fait, ce sujet, sans tomber, en fait, dans les stéréotypes habituels lorsqu'on parle de la question berbère.
Eh bien, justement, allez vous le procurer. Franchement, si vous voulez soutenir ce premier ouvrage qui s'intitule « Comment peut-on être berbère ?» aux éditions Rineuve, avec la contribution de 22 spécialistes chercheurs, justement. C'est bien ça, Hamid ?
C'est bien ça, Adil.
Hamid Chabani, je le rappelle à tous celles et ceux qui nous écoutent, justement, il est historien, spécialiste de l'Afrique du Nord, notamment du monde amazigh, contemporain. Il est l'auteur, je vous le rappelle, du Printemps Noir de Kabylie de 2001. Il est aussi chercheur, conférencier, formateur. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Hamid Chabani.
Merci beaucoup, Adil, de m'avoir laissé le temps de présenter cet ouvrage. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté.
Absolument. Et on nous invite l'auditeur à aller se le procurer. Et je lui souhaite un beau succès. Merci, allez, on se retrouve avec cette question. Peut-on se faire ce justice soi-même ? Évidemment, je fais référence à Rouen et cette affaire. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, tout de suite, jingle, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Et les informés vous donnent la parole.
Je me suis empressé un peu. 18h22. Justement, 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre partout en France venir, d'une certaine manière, exploser le standard. Vous le savez, on vous attend. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Une question que je vous pose. On va revenir sur l'affaire de Rouen. Rouen, justement, vous connaissez l'affaire, hein, un père qui a frappé un adolescent soupçonné d'avoir agressé, sa fille de 6 ans, justement, en pleine nuit. L'avocat du père, évidemment, il a réagi. Le père, Yanis, a réagi aussi. Le procureur qui a dit que, évidemment, le père s'est déchaîné, mais on ne peut pas se faire justice soi-même. Et puis, l'état de droit doit primer, a estimé, donc, l'exécutif, le gouvernement. Allez, j'ouvre l'antenne. Je voudrais vous entendre. 01 53 48 3000. Peut-on se faire justice soi-même ? Évidemment, quand ça touche nos enfants. La question, elle est très claire. C'est vrai qu'on s'interroge quand même, non ? Bon, allez, tout de suite, on va accueillir Bachir de Lyon. Bonjour, Bachir.
Bonjour, Adil.
Comment ça va, mon cher Bachir ?
Ça va très bien, et vous ?
Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis commerçant.
Commerçant. Bon, ça va ?
Oui. Bon, alors,
sur cette histoire de Rouen, le père, évidemment, qui a décidé de faire justice soi-même. Vous, est-ce que ça vous interpelle ? Et puis, il y a la question que je pose, comment vous voyez tout ça si demain on touche vos enfants ? C'est compliqué,
écoutez,
hein, compliqué. Hein.
Je suis l'histoire depuis 2-3 jours, là, sur cette personne qui a fait justice soi-même parce qu'on a touché son enfant. Mmh. Et moi, personnellement, je lui donne tout à fait raison.
Pourquoi ?
Ben, écoutez, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, qui sont mariés, et j'ai un certain âge. Et je me souviens que quand ils étaient petits, j'étais très, très, très...
Oui.
À chaque problème qu'ils avaient, j'étais présent et j'étais. Et quand ils, même quand ils étaient malades, je me disais pourquoi ça tombe pas sur moi, pourquoi ça tombe tout haut tellement que j'étais autour d'eux.
Oui. Oui.
Et de toucher à mes enfants. Déjà physiquement, ça m'aurait touché. Alors sexuellement,
oui.
Mais je peux pas vous l'expliquer, mais oui. c'est.
Mais l'expédition punitive aussi. Vous pensez que ça va servir à quelque chose aussi ? Il y a ça aussi, la question qu'on se pose aussi. Hein.
Vous avez peut-être raison, mais je pourrais pas réagir autrement que la personne a réagi. C'est pas possible.
Oui.
Moi, c'est mon point de vue. Bon, il y a d'autres personnes qui ont d'autres points de vue, mais moi, mon enfant...
Mais je les attends justement au 01 53 48 3000. Bah, 01 53 48 3000, mais... venez en parler justement. Je vous attends.
Je vous parle de moi personnellement. Et je pourrais pas faire autrement que ce qu'a fait cette personne-là. C'est pas possible.
Donc vous comprenez la réaction du père, mais,
ah
bon,
mais bien
après...
sûr, je comprends la réaction du père. Et je pense... Et heureusement que ça
mais vous bon, savez que la violence
est réellement passée parce
la
que
violence
les médias,
sur la violence
ils disent des choses
oui.
et je ne sais pas réellement ce qui s'est passé mais sexuellement parlant c'est ça touche moi je pense que son enfant de le savoir toucher sexuellement mais c'est très fort c'est incroyable
oui.
Mais bon. je réagis à ce que vous dites. Maintenant, vous le comprenez ou vous le comprenez pas. Moi, c'est
j'entends, j'entends. Raison, j'entends. J'entends.
Voilà. Alors, ceux qui ont leur enfant comme la petite Lola qui a été tuée gratuitement et monstrueusement, c'est encore pire. Mais non. Voilà. Bon. J'ai réagi à votre.
Écoutez,
à ce que vous disiez, monsieur.
Eh bien, écoutez, je vais ouvrir l'antenne et je vais entendre tous les autres, justement. Merci, Bachir, d'être intervenu de Lyon.
Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Au
revoir. Merci de votre fidélité. Allez, je vais aller de Lyon, je vais sauter, je vais remonter un peu plus au nord. Je vais aller retrouver Mantes-la-Jolie. Kader, bonjour, Kader.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Kader ?
Je suis technicien.
Bon, ça va ? Ça se passe bien ?
Ça va, impeccable, ça va, je vous remercie.
Bon, vous avez entendu Bachir de Lyon ?
Oui, bien sûr. Je le comprends tout à fait. Moi, je voulais réagir juste par rapport à ça, rapidement.
Oui.
Comme ça, je laisse un peu le temps pour tout le monde un peu de parler de ce sujet-là.
Oui.
Et moi, je suis père de famille. Et personnellement, si cette histoire devait me toucher, en fait, j'espère pas. Mais bien sûr qu'on doit réagir comme ça. Je pense, hein. Même si, niveau, je pense, loi, on est un peu hors la loi. Mais quand on touche vos enfants, et encore, oui. Voilà, comme on dit, c'est pas physiquement, mais là, c'est plus quelque chose de, je pense, de très très grave.
Oui.
Vous voyez ?
Oui.
Ce qui est normal, qu'on a à chaud, bien sûr qu'on doit réagir comme ça. Et surtout quand on voit certains, des personnes qui travaillent dans les médias, qui ont été confrontés à ce sujet-là, et qu'ils ont eu juste un an de sursis, ou, voire pas de peine, bien sûr qu'on se pose des questions et qu'on se dit est-ce qu'on est vraiment en sécurité ? Est-ce que c'est des choses qui doivent se faire, surtout quand on touche à nos enfants ? Les enfants de la République...
Vous savez, Kader...
On est Kader, protégés, vous savez ?
Bien sûr, Kader, je voudrais juste dire à tous celles et ceux qui nous écoutent. Je comprends, j'entends ce que vous dites. J'entends qu'effectivement, quand on est sous le coup de l'émotion de la colère, sous l'emprise de la colère, effectivement, canaliser cette colère... Bien sûr, allez, c'est d'abord, on est tous des humains, et quand il s'agit de notre enfant, évidemment, vous êtes dépassés, évidemment, par tout cela. Mais, j'ai envie de vous dire, hein, vous savez que le magistrat a ouvert une enquête contre le père, justement, pour violence aggravée en réunion, parce qu'ils étaient plusieurs, et avec usage d'une arme. Vous savez combien il va encourir, ce père de famille ?
Oui, mais pourquoi je vous pose...
Il encourt 7 ans de prison, et 100 000 euros d'amende pour justement s'être fait justice soi-même.
Oui, mais est-ce que c'est normal dans ce cas-là ? Vous voyez ? Est-ce qu'on ne doit pas tourner la question dans l'autre sens ? Pourquoi on ne juge pas la personne qui a fait ça pour son enfant ? Parce que
il
là,
va être jugé
aussi. L'enfant, il
bien
est
sûr,
marqué
le mineur,
à vie.
Il va être jugé. Bien sûr que le mineur va être jugé.
Oui, mais quand on voit dans certains cas, il y a des personnes qui ont été jugées par rapport... je sais pas, moi, de la pédocriminalité ou de l'agression sexuelle, ils ont eu quoi, à la fin ? Un an de sursis ? C'est ça ? Allô ? Allô ? Allô ?
Vous m'entendez ou pas ?
Oui, là, je vous entends, oui.
Un jour, on a eu peut-être une mini-coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, mais je vous entends très bien.
Je vous ai dit, est-ce que c'est normal, en tant que père de famille, parce que là, l'enfant, il est touché personnellement, toute la famille.
Bien sûr, mais c'est normal, mais évidemment.
Voilà. Donc je pense que la justice, elle est bien faite, entre parenthèses. Mais elle doit avoir aussi ce côté sentiment, vous voyez le sentiment des parents.
Mmh. Oui. Voilà. Et bien, Kader, merci d'être intervenu, Kader.
Il n'y a pas de souci, merci beaucoup en tout cas, et j'espère que ça va s'arrêter tout ce bazar là dans le monde.
Ah, bah ça. Effectivement, ouais. Il s'en passe des choses. On en parlera tout à l'heure. Merci Kader du côté de Montlajoli. Vous continuez à nous appeler au 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler. Il est 18h30. C'est parti pour le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, vous le savez, c'est avec le docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôtel des Invalides, chez les militaires et aussi chez au SAMU, pardon. Donc où il effectivement où il exerce son métier de docteur, inlassablement. Bonjour mon cher docteur.
Bonjour mon cher Adil.
Comment ça va le professeur?
Ça va, je vous ai senti un peu perdu avec le jour de la semaine.
Non, ça va, vous inquiétez pas, effectivement, je sais que vous veillez évidemment à ce que je garde le cap, mais ça va. Pour le moment, jusqu'ici, comme disait le film, tout va bien.
Ah, ça, c'est sérieux.
Vous avez décidé de parler de votre quoi neuf, consacrer votre billet d'humeur autour de la question de la diversité, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, mon cher Adil, une nouvelle extraordinaire, une breaking news, comme vous dites, vous les journalistes, vient de tomber. Le roi Emmanuel Macron Ier vient de limoger Elisabeth Borne pour nommer une jeune première ministre pleine de talent, Fatima Ben Othman. Cette jeune femme est un parfait exemple de réussite. Sciences Po Paris, puis l'ENA, une carrière dans la haute administration. On fait d'elle un
grand comité d'État. Non. Que vous, docteur Lassay, il est en forme, là.
On fait d'elle un grand commis de l'État et non pas un commis de cuisine, bien que selon Paris Match, elle sache rouler le couscous. On entend bien grincer quelques dents, un peu comme quand Kadour Ben Ramdan avait gagné les élections municipales et s'était installé dans le fauteuil de maire de Paris. Je vous rassure, Adil, nous sommes à Paris et pas à Londres, c'est jambon beurre et pas fish and chips. Avouez que vous avez eu peur.
Oui, j'ai eu peur.
À un moment,
oui.
Vous avez cru qu'on allait vous nommer ministre de la Communication. Oui. Ne rêvons pas,
ça c'est sûr.
Ceci n'est pas impossible, mais ce n'est pas pour demain. Sauf, si j'accepte de suivre le conseil de ma mère qui pense que je suis le meilleur et que je me présente au présidentiel.
Oui.
Pourtant, il y a quelques précédents dans l'histoire de France. Sarkozy, fils d'un immigrant hongrois qui s'est définissait lui-même comme un président de sang mêlé. Et surtout, Léon Gambetta, homme clé de la Troisième République, ouais, d'origine italienne, à l'époque où les Italiens ne valaient guère mieux que les Bico et les Bougnoul, et où on faisait des ratonnades d'Italiens à Aigues-Mortes. Peut-être avons-nous reculé en France, je vous laisse juste, mon cher Adil.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est vrai.
En tout cas, sont quand même tombées quelques bonnes nouvelles cette semaine. Il y a presque partout, enfin de l'essence, qui nous rassure un peu pour nos trajets quotidiens. Je vais pouvoir aller faire un tour dans le Morvan avec mon 4x4 diesel. Et une bonne que vous connaissez.
Merci, bravo. Bravo la pollution.
Et encore une bonne nouvelle, je vais pouvoir le garder encore un peu. Puisque Anne Hidalgo vient de se rendre à une évidence. Elle va devoir attendre avant d'interdire le diesel dans Paris. Et les ZFE vont devoir patienter pour être installés plus progressivement. Ce qui semblait quand même être tellement évident dans un contexte où, avec le Covid et la guerre en Ukraine, il faut attendre plusieurs mois, voire une année, pour recevoir n'importe quelle commande de voiture, notamment les voitures électriques, dont je rappelle qu'elles sont pour la plupart fabriquées avec des batteries chinoises.
Ouais.
Et enfin, dernière bonne nouvelle, mon cher Adil, nous allons pouvoir reprendre nos petites balades en vélo en forêt, avec ce petit cuissard qui vous va si bien, Adil. Si vous voyez ça, mesdames.
Il est bon.
Balade sans danger. Puisque désormais, ouais, on veut imposer une mesure sur l'alcoolémie.
Attention,
pour les chasseurs.
Ils vont finir par croire, nos auditeurs.
Hein. Ah, écoutez, ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Ouais. Puisqu'on veut imposer une mesure sur l'alcoolémie pour les chasseurs. Car comme vous le savez, mon cher Adil, un bon chasseur doit savoir chasser sans s'enivrer.
Ah,
vous répétez ça après moi.
On peut l'applaudir. Bravo. Bravo, docteur Majid Soussine, comme chaque mercredi. Comment ça va d'ailleurs au niveau des hôpitaux là? Ça s'annonce comment?
Ça s'annonce mal, mais ça, c'est la continuation d'une longue histoire. C'est la stratégie de. C'est la stratégie de la tension permanente. Hein. Ça dure depuis plusieurs mois maintenant, voire bientôt plusieurs années.
Bon.
Et ça n'est pas prêt de s'arranger.
Bon courage, mon cher docteur Majid Soussine.
À votre service.
Prenez soin de vous surtout.
Mais vous inquiétez pas pour moi.
Absolument. Tiens, je vais aller accueillir Lilia de Paris avant de marquer la pause. Lilia, bonsoir Lilia.
Bonsoir.
Bienvenue ma chère Lilia. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis préparatrice en pharmacie.
Bon,
et je prépare et je finis mes études quoi.
Encore. On a besoin de vous, justement. Lilia, je vous écoute. Peut-on se faire justice soi-même ?
Écoutez, quand il le faut, on peut. Vraiment. Ah. Je suis une maman.
Ah.
Je vous donne directement. Je suis une maman.
Oui.
J'ai une fille et un garçon. Celui qui touche ma fille, surtout dans le contexte du viol et tout ça, bah, écoutez, je préfère mourir et sauver mes enfants.
Oui.
Celui qui touche ma fille, c'est pareil. Parce qu'on sait très bien, là, par exemple, là, le cas, tout ce qui se passe, Lola, le reste... On a quoi ? On a directement, ils vont nous parler de quelqu'un qui a un problème psychologique. Écoutez, il va rester 8 ans, il va faire des études, il va faire une formation, il va faire ce qu'il veut en prison, c'est très bien comment ça se passe. Et après, il va sortir, il est libre. Mais par contre, la brûlure des parents et tout ce qui est passé, tout ce qui... Non, on ne me touche pas mes enfants et je fais ma justice toute seule. Soit ils revoient leur, je sais pas, leur justice, ils regardent tout ce qui est loi, tout ça... C'est pas notre problème, nous.
Oui. Oui. Bon.
Voilà, ça, c'est mon avis.
C'est,
hein.
C'est radical.
Je
chez
respecte
vous.
Le reste. Hein.
Ah, c'est radical.
Mais
merci, Lilia, d'être intervenue.
Voilà. Merci, bonne soirée, Lydia. Bon courage à vous.
Mais merci. Merci, vous aussi.
Bonne continuation, surtout.
Restez avec nous, 18h36. 0153483000. Dans une poignée de minutes, on retrouve les débatteurs influenceurs qui sont avec nous, avec les sujets qui ont retenu notre attention. Restez avec nous. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, merci. Présentés par Adil Farkan.
Ouais, merci, je disais merci. 18h42, si vous venez de nous retrouver, les informés, c'est jusqu'à 19h30, vous le savez, c'est vous aussi au 0153483000 avant de retrouver. Tiens, je vais saluer nos débatteurs influenceurs qui sont avec nous, avant d'accueillir Bachir et Riyad. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, je vais les accueillir avant de retrouver Bachir et Riyad qui nous appellent. Peut-on se faire justice soi-même ? Tu smiley, ils sont tous souriants là, les débatteurs. Tiens, je vais commencer par celui qui nous filme. Philippe Ladji-Bouriaki, le conseiller municipal, comment ça va ?
Et conseiller régional et porte-parole nationale de l'écologie au centre.
L'écologie au centre, ça existe depuis peu ça ?
Ça existe depuis très longtemps, ça s'appelait l'Alliance écologiste indépendante.
C'est l'Alliance écologiste.
Et puis il y a eu Cap écologie, maintenant absolument. C'est l'écologie au centre.
Mélade Ougenir, comment ça va ?
Très bien, Adil.
Consultant en numérique, ancien élu sur la ville de Bondy.
De Rosny-sous-Bois.
Rosny-sous-Bois, pardon.
La dernière fois, vous m'aviez mis à Bobigny, Adil.
Bobigny. C'est pour la petite histoire.
Vous allez me
Bobigny, j'ai eu Adilou qui m'a appelé, il m'a dit non, mais attends, Bobigny, c'est moi. Hein. C'est pas Médad. C'était bon.
C'est magnifique.
Exactement. Comment ça va, mon cher Gabalabina ?
Et vous, ça se passe bien ?
Ça va ?
Pas trop chaud ?
Si. Si, le studio. C'est quoi, les amis auditeurs?
Ça beurrait, ils nous ont.
Non, mais attendez, ils nous ont mis 29 degrés. Ils l'ont bloqué à 29. Du coup,
sobriété,
t'as l'impression que c'est d'être dans un sauna, un hammam. Le hammam parti, tu sais, on est là entre nous. Là.
Préciser, Adil, qu'on n'est pas en serviette non plus.
Non, on n'est pas en serviette. On est tous bien habillés, costumes.
Ouais, costumes.
Absolument. Allez, je vais accueillir Bachir qui nous attend depuis tout à l'heure avant de vous retrouver, les amis, tout de suite, là, dans une poignée de minutes. Bachir, du 20e, Paris 20e, j'imagine, non ? Bonjour,
exactement,
Bachir.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Bachir ?
Je suis un conducteur de travaux.
Ça se passe bien, ça va, les routes, ça va ?
Ça va, tout va bien, c'est un peu bouché, je suis sur le périph' parisien.
Bon, Bachir, on vous écoute.
Ça s'adapte.
Peut-on se faire justice soi-même, justement ? C'est la question qu'on...
Exactement. Moi, je trouve que c'est pas normal, parce qu'on peut pas, on n'est pas dans la jungle.
Oui.
Et surtout, on peut pas faire justice à nous-mêmes, sinon...
Vous êtes le premier à dire ça, hein ?
C'est pas trop tôt.
Oui,
c'est pas trop tôt, dit Gabalabina.
J'ai des enfants, et je comprends par la suite... Mais quand je vous dis, on n'est pas à la jungle. Si on piège juste même, tu viens ton frère, ta sœur, la famille, un peu tout, donc on ne s'arrête jamais.
Oui, c'est vrai. On ouvre la porte effectivement à quelque chose où voilà, ça devient une série de, comment dirais-je, d'expéditions punitives, si je peux permettre cette expression, parce que c'est le cas, non ? Je crois que c'est le cas.
Exactement. Et en plus de ça, c'est très 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 dur à accepter ce que. Si on aura un enfant agressé devant nous, même si ce n'est pas mon fils ou ma fille, trop dur. Du coup, les personnes qui l'ont ramené, normalement, c'est à eux de le calmer. Par exemple, moi, c'était moi et mon frère qui m'appelle, c'est à moi de le calmer. Si c'est un ami ou un cousin, c'est à moi de le calmer.
Ouais.
C'est trop dur de réagir avec la personne qui est en colère. Sinon, moi, je le trouve qu'il était un peu en avance dans ses colères. Et le pauvre, il va...
Vous imaginez une seconde s'il l'avait tué, le petit ? Parce que quand t'es emporté par la colère, franchement, vous faites pas attention, je dirais, à ce que vous, ce qui vous passe par la tête. Je sais pas, moi j'en sais rien, mais vous avez un câble, ils avaient des armes. Vous commencez à le tabasser. Vous imaginez, vous le tabassez et il finit par mourir.
Ah bah là, il a 20 ans de prison pour rien, quoi.
Voilà.
Et ça finit mal pour la famille, pour la petite.
Eh ben merci Bachir pour votre témoignage.
Ok, je vous remercie beaucoup et c'est gentil, à la prochaine.
Ben avec plaisir, vous le savez. 18h, 19h30, on est là, tous les soirs.
Merci, merci.
Riyad du 92, quelle ville du 92, mon cher Riyad, bonsoir.
Bonjour, comment tu vas ?
Ça va très bien.
Alhamdoulilah, ben moi je suis un abonné de, comment ça s'appelle, 38.7.
Oui.
J'appelle matin, midi, soir, moi-même de, comment t'appelles, l'étranger, etc., etc. Par ça, tout va bien. Je passe un bonjour à toute l'équipe.
C'est bien.
Et
ça
voilà.
Fait
donc, je voudrais réagir à votre réaction, là.
Allez-y.
Moi, je suis contre.
Oui.
Je suis contre. Parce que, franchement, comme, ça se fait pas. Le
comme, monde Bachir. Fait, comme Bachir.
Le monde qui s'est fait tabasser, quel âge il a, Adine?
16 ans.
16 ans. Alors, imaginez un de nos enfants qui rentre à la maison avec un bleu. Ou avec un simple cocard dans l'œil, tout de suite on envoie 10-15 personnes pour tabasser le mec qui a fait ça au monde.
Ouais.
Ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi j'ai mon fils qui s'est fait agresser en plein lycée. Bon, il avait 15 ans. Et bon, j'ai été voir les parents, j'ai parlé avec eux, je dis voilà, écoutez, bon, ben vous arrêtez. Ils n'ont pas voulu arrêter. Bon, j'ai pas voulu envoyer la charge héroïque derrière parce que moi je suis issu d'une grande famille. Un simple coup de fil, tu sais, ils viennent tous, donc ça sert à rien. Donc on a porté plainte et puis on est passé au tribunal et on a
Vous avez raison, Riyad, de rappeler ça parce qu'il n'y a qu'une loi qui autorise effectivement qu'on peut être couvert quand on justifie la violence.
Ah oui.
C'est quoi? Alors c'est le code pénal, article 122.6.
Exactement.
Pour repousser une entrée par effraction, une violence, une ruse dans un logement ou encore en guise de défense face aux auteurs d'un vol ou pillage violent. Là oui, le code pénal vous protège.
Exactement. Et moi, les trois mamans, ils sont venus vers moi. Ils m'ont supplié de pas porter plainte parce que comment dirais-je retirer ma plainte parce que leurs trois enfants, ils ont été condamnés.
Mmh. Ouais.
Condamnés avec les travaux.
Non, mais c'est bien que vous rappelez un certain nombre de choses.
Avec une bon, j'ai pas voulu de leur argent parce que ça, j'en veux pas, tu vois.
Mais oui.
Moi, je parle d'un principe, ça sert à rien. Là, le père de famille, il a gagné quoi? Il a ramené 10
personnes. Il risque de gagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, il risque de gagner 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Voire même plus. Parce que là, si le môme, il a à peu près 30 jours de. Comment ça s'appelle, d'ITT, là, ça va faire très mal.
Ouais.
Surtout un môme de 16 ans. Mais vous rendez-vous compte?
Ouais. Merci d'être intervenu, mon cher Riyad.
Moi, j'aimerais juste terminer pour dire où est-ce qu'on va?
C'est une bonne question.
Est-ce qu'on est dans une jungle? Est-ce qu'on est dans une jungle? Alors imaginez, on serait en Amérique. On sort avec les flingues, on va tuer le mec. Ça sert à rien.
Vous avez raison.
Et là, le mec, il a tout gagné. 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Et je prie pour la famille. Je sais pas comment ils vont prendre ça, mais franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, 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 très pacifique. J'aime pas la violence. Je ferai pas le calme. Et voilà, quoi. Mmh. Voilà.
Merci Riyad d'être intervenu. Tiens, je vais faire un tour de table, même si c'était pas prévu. Tiens, un tour de table justement. Peut-on se faire justice soi-même, mon cher Gamal Abinah? Un tour de table avant d'aborder les sujets qui nous ont retenu.
Absolument pas, et je trouve choquant que les gens ne réfléchissent pas. L'émotion n'est pas bonne conseillère en l'occurrence. Les crimes passionnels, souvent d'ailleurs, sont considérés comme étant des crimes qui n'ont pas été maîtrisés parce que c'est un acte de folie. Mais là, j'entends beaucoup, c'est pas la première fois que j'entends ça, une multiplication de sorties hasardeuses. On a le droit, il faut juger vite, il faut faire. Non. La justice n'est pas de la vengeance. La justice, c'est des enquêtes, c'est établir les faits et sanctionner. Et ce monsieur.
Chacun son métier.
Absolument. D'ailleurs, le môme de 16 ans, quelque chose qu'il a fait ou pas fait, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas encore vraiment, c'est lui, hein, c'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il a porté plainte contre le père. Donc, il faut être mesuré dans son choix. Je comprends l'émotion à titre personnel. Je dirais que si moi, on agresse un membre de ma famille, j'ai envie de massacrer, mais ça s'appelle de la vengeance. C'est pas de la justice.
Mélade ou Génère?
Je partage non seulement tout ce qui a été dit, et puis dire que faire justice soi-même, ça revient à devenir soi-même un délinquant, voire un criminel dans certains cas, et avec tout ce que ça peut entraîner aussi de conséquences déjà sur soi, sur ses proches aussi, parce que vous faites justice vous-même, vous finissez en prison, bah, vos proches sont aussi impactés, c'est leur faire une deuxième fois du mal et les lancer dans une spirale qui forcément ne va pas dans le bon sens. Et donc naturellement non, même si c'est difficile, même si humainement c'est compliqué, et ça a bien été dit tout à l'heure, c'est aux personnes qui quelque part accompagne ou en tout cas ont affaire à la personne qui souhaite se venger de le calmer et pas de l'entretenir dans un délire ou se lancer dans une démarche punitive qui n'amène à rien de bon.
Philippe Ladjibouriaki,
je vais vous lire un article du Parisien. Paris, allez-y. Le pédophile de la ligne 6 du métro remis en liberté dans l'attente de son procès. Voilà, je vais pas répondre à la question parce que je suis un élu de la République, mais si on fait du mal à mon enfant, il faut que la justice l'attrape avant moi. Point.
Bon, écoutez, on l'aura tout compris. On aura compris, effectivement. Allez, on va marquer une pause. Comment ? Bon.
L'arrestation citoyenne existe dans les faits.
Messieurs, on marque une pause
et
on
parle légalement.
Et on parle d'inflation. Vous savez quoi ? Tous les produits alimentaires, c'est le prix. Les prix ont flambé. On en parle ? On marque une pause et on se retrouve. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Oui. 18h54, le face-à-face continue.
Les informés, le face-à-face.
Comment l'inflation affecte notre quotidien, vous le savez désormais, c'est des produits alimentaires qui grimpent et hop, ça monte. Sauf qu'on, est-ce qu'on n'est pas en train de, évidemment, de se retrouver dans une situation où on peut se poser la question, manger devient un grand luxe, Gamma Labina. Bah, vraiment, je me la pose la question aujourd'hui. Non mais c'est vrai que tout coûte cher, comment tu fais ?
Moi je dis qu'un État qui ne protège pas les plus faibles est un État défaillant. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne légifère pas pour empêcher la spéculation. C'est intolérable parce qu'il faut comprendre comment marchent les marchés, comment marche le marché en général. Les produits alimentaires vendus aujourd'hui ne souffrent pas d'augmentation. C'est pas logique. On est sur des réserves et des stocks stratégiques qui existent depuis longtemps. On surproduit depuis des années. On sait que l'Europe. Donc les produits qui arrivent avec des prix qui étaient déjà antérieurs. Mais là, ils sont en train d'anticiper un mouvement pour nous faire sanctionner. Pourquoi ? C'est un peu comme l'histoire de l'essence. Il y a moins d'essence, on augmente les prix. Ça s'appelle du profit.
Mais vous savez que les gens, ils mangent plus à l'extérieur maintenant. Ils achètent que des sandwichs.
C'est normal parce qu'on est en train de sécher la population. Et ce qui est dégueulasse, c'est que le gouvernement devrait au mieux contrôler ses prix, si ce n'est bloquer les prix pour les denrées alimentaires de base. Ils ne le font pas.
Ils ne le font pas, ouais.
Moi, je ne suis pas spécialement partisan de l'interventionnisme de l'État dans l'économie, mais ça n'empêche pas, la confiance n'empêche pas le contrôle. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'étonne beaucoup, c'est dans la grande distribution, tous ces circuits où, dès qu'il y a une annonce quelconque sur le plan géopolitique, dans l'heure, le prix de votre caddie prend 10, mais 15, tout, 20%. Tout. Non mais moi la question c'est
le
de savoir comment
ce type en augmentation de 12,4%
les règles
sur un an.
Mais c'est là-dessus qu'il faut se questionner parce que je pense que c'est énorme. Pris parfois comme des opportunités de faire un peu plus, effectivement, notamment dans la grande distribution. Je suis désolé de taper dessus, mais je reprends, il y a quelques mois déjà, Michel-Édouard Leclerc, qui avait, pourtant, on peut pas lui dire qu'il n'est pas dans la grande distrib, qui avait soulevé la question, et moi, je fais écho aussi à ça, soulevant la question de savoir comment les prix sont ajustés. Qui décide combien, pourquoi ce montant-là? Parce que je pense que même si, naturellement, il y a une inflation du fait du contexte, parce que peut-être que des ressources sont un peu plus rare.
Mais les contrôleurs, c'est qui? C'est Bercy.
Mais il faut aussi regarder. Il y a pour moi, dans ces 10%, vraiment, je pense, une bonne partie qui est un effet, finalement, d'opportunité, un effet d'aubaine pour certaines personnes. Et naturellement, peut-être, il y a un peu d'inflation, on va dire, mécanique, celle-là qui est quasi inévitable. Et pour moi, il y a effectivement quelque chose à regarder du côté des décideurs des prix, voilà, tout simplement, et des vendeurs.
Philippe Ladjibouriaki, vous, l'élu, justement, comment vous réagissez ?
Il y a un souci entre les grossistes, les fournisseurs, les distributeurs et les intermédiaires. Parce qu'il y a des intermédiaires à chaque fois. Et à chaque fois que vous avez un intermédiaire, il a sa com. Donc, je sais que les stocks métro, par exemple, ou dans As, qu'on appelait avant, sont remplis à craquer.
Bien sûr.
Ils sont remplis de ce qu'il y avait l'année dernière. Donc, ce n'est pas normal que les prix augmentent. C'est pas possible.
Je vais rajouter un truc important. Ouais. C'est bien, Philippe, de rappeler. Je rappelle qu'on a eu 2 mois de Covid. Donc, 2 mois de stocks qui n'ont pas été vendus. Donc, déjà là, ça conforte ce que tu dis.
Oui, complètement. Et donc, il y a un effet de spéculation qui met la corde au cou aux plus fragiles, aux plus modestes de notre pays, qui subissent et l'augmentation, en plus, on est au-dessus de l'augmentation de l'inflation, donc ce qui n'est pas normal.
Ouais. Je peux vous donner quelques chiffres ?
Bien sûr.
Eh ben, je vais vous en donner. Ces produits de quotidien sont de plus en plus chers. Justement, les prix ont flambé partout. Le riz, l'huile d'olive, plus 24% pour les papiers hygiéniques, 23% pour les essuie-tout, 11% pour tout ce qui est mouchoir, etc. Allez, un peu plus loin même, d'ailleurs. Ça a tellement grimpé qu'on parle de 16,9% pour le pain de mie, 11,3% pour vous savez, tout ce qui est... comment on appelle ça, tous les trucs qu'on achète, la charcuterie, voilà, je cherchais le mot, charcuterie. 25,6% pour le beurre, 11,2% pour tout ce qui est chocolaterie, etc.
C'est vrai qu'on fait pas de beurre en France, il n'y a pas de blé en France.
C'est énorme. C'est énorme.
Bien sûr, c'est énorme. Mais
d'huile d'olive.
Après, il faut. Alors, moi, je lance un appel aux consommateurs. C'est terrible ce que je vais vous dire. On va parler de sobriété alimentaire. Je ne dis pas qu'il ne faut plus se nourrir. Je dis qu'il faut éliminer tout le superflu. C'est-à-dire tous les gâteaux, les sodas, etc. On élimine tout ça et on envoie un signe très fort à la grande distribution, à tous les maillons de la grande distribution pour dire, écoutez, nous, on ne peut plus. Le petit plaisir du petit gâteau fourré au chocolat, pour ne pas citer de marque, eh ben, on ne va plus le prendre. Et donc, c'est des marges que vous n'aurez plus, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est toute la chaîne que tu répercutes. Et forcément, ils vont s'asseoir à un moment donné et se mettre tous d'accord. Parce que Leclerc nous dise, ouais, il y en a qui spéculent, mais lui, in fine, il faudrait qu'il nous prouve, qu'il mette à jour ses prix, dire, voilà, ça, je l'ai payé tant, je l'ai fait tant de marge
c'est
dessus.
C'est basé sur un produit, Leclerc, et il avait raison.
Lequel?
C'est sur l'huile d'olive.
Ouais.
L'huile de table.
L'huile de tournesol.
L'huile de tournesol qui est produite en France, et dit, et il avait raison de le dire, l'Ukraine a bon dos, mais il me semble que le tournesol est produit en France. Et il se trouve qu'ils avaient accusé un temps les musulmans.
Qui dit ça?
C'est Leclerc. Voilà. Et ce qui se passe là-dessus, il y a un vrai problème.
Ouais, mais il y a eu le ramadan aussi.
Voilà, bah c'est pour ça que je parle des musulmans.
Le mouton frit, ouais.
Non, la vraie problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui profitent de la situation, ils en profitent bien. Les chiffres qui sont donnés qui ne sont pas réels, on parlait de 8-10% maintenant, largement au-dessus. Et surtout le fait qu'effectivement, les plus fragiles d'entre nous allons souffrir de ce qui se passe. Et c'est intolérable. J'ai envie de dire simplement, c'est que je ne savais pas que l'Ukraine produisait tout dans le monde.
Oui.
Ensuite, je ne savais pas que le pétrole avait explosé. On est à 90 $, hein, je rappelle. Donc le pétrole a reculé.
Ah, il est encore reculé.
À 120 $ il y a encore deux mois. Donc le coût du transport a baissé. La production alimentaire se fait essentiellement en France. Je rappelle que la France est une des cinq plus grandes puissances en matière de production de blé et d'autres produits, mais au moins du blé, et qu'on se retrouve avec des augmentations qui sont parfaitement fantaisistes. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir si on ne devrait pas lancer simplement, et là je rejoins Philippe, une grève, enfin un gel, j'allais dire, ou pratiquement une grève de la consommation sur les produits qui ne sont pas essentiels.
Oui. Ménad, allez-y.
En l'occurrence, moi, il y avait un reportage qui m'est particulièrement choqué, c'était sur les robes de mariée. Alors, on ne peut pas appeler ça un produit de consommation courante, mais ça reste quand même un produit important. Et sous prétexte qu'il y avait certains éléments de ces robes qui provenaient d'Ukraine, les prix avaient quasiment doublé. Alors, pareil, je pense qu'en France, on est largement capable de faire des robes de mariée, y compris avec le coût du travail qui est le nôtre. Hein, ce n'est pas tellement le sujet. Et puis, il y a un autre sujet, le pendant, j'allais dire, de l'inflation, c'est les salaires. Parce que vous pouvez avoir 20% d'inflation, si j'augmente votre salaire de 20%, quelque part, ça compense. Et là, il y a aussi, je pense, quelque chose à faire du côté, alors, du côté des entreprises, naturellement. Mais beaucoup ont provisionné, beaucoup ont alimenté leur compte de provision pour risques et charges, parce que la guerre, etc. Et il y a bien un moment où il va falloir l'entamer un peu pour en redonner un peu aux salariés, parce que dans les faits, 10%, là, puisque c'est une synthèse, hein, 10%, et vous avez fort bien détaillé les augmentations, ce sera plus supportable. C'est-à-dire qu'à un moment, on a beaucoup d'employeurs qui se plaignent de ne plus trouver personne. On comprend pourquoi ils ne trouvent plus personne.
Justement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il dit à condition constante, nos objectifs est de ramener l'inflation autour de 2% en 2024. Là, c'est possible
2024.
Ouais.
C'est une blague.
Ouais. Mais je vous pose la question.
Sous Mitterrand, quand il y a eu l'austérité, parce qu'il y a eu c'était la fête, j'allais dire la fête au village pendant deux ans, de 80 à 83. Après, c'est la politique de mon roi d'austérité. Je rappelle que l'inflation était à 20%. Je rappelle que la France a eu un tulac qui a duré 20 ans. Mais surtout, et c'est important, parce que là, je pense que tu dois être chef d'entreprise, j'ai l'impression. Alors, tu connais bien les mécaniques, en substance.
Je me récolte.
Il y a une perte. Non, mais j'ai l'impression qu'il connaît un peu le principe. On parlait tout à l'heure de production pour risque et charge. Il y a un problème qui se pose, c'est que nous, tous, quand on est petit épargne, on était rémunéré à 0,5 et à 0,9% maxi, d'accord ? Aujourd'hui, l'inflation est à plus de 12%, oui. Alors que l'épargne rémunérée est restée en plancher. C'est-à-dire que non seulement il y a une perte de pouvoir d'achat pour ceux qui sont salariés, mais pour ceux qui ont de l'épargne, ils sont en train de perdre tous leurs capitaux qui fondent comme des neiges au soleil. Ces questions ne sont pas posées par le gouvernement alors qu'il aurait dû faire immédiatement imposer aux banques qui rehaussent les taux d'épargne.
2% en 2024, non.
Sous prétexte que pendant le Covid, les Français n'avaient pas dépensé autant pendant les confinements, donc ils avaient constitué une espèce de trésor de guerre, mais franchement, si ce trésor de guerre est dilué, ils font comme neige au soleil à cause de l'inflation, ça ne va pas non plus aider beaucoup l'économie, puisque ce n'est pas de l'argent qui va aller réirriguer l'économie.
Ce qui est étrange, c'est que l'inflation, on la comprend en pleine tête. Rappelez-vous, Adil, il y a quelques mois, on en parlait de justement les taux directeurs des États-Unis au niveau de la Fed. Et d'ailleurs, Farid Temsamani, on avait fait une rubrique, et même Emmanuel Dupuis, lorsqu'il en parle, c'est même fascinant. Elle attend quoi
La Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale Européenne pour agir. Non, mais à un moment donné, je sais pas, je ne suis pas un spécialiste en économie, mais il y a peut-être la planche à billets qui a une alternative.
L'inflation par la masse monétaire.
Mais ouais, mais.
C'est pas ça qui crée l'inflation aujourd'hui, malheureusement. C'est un des éléments, mais c'est
bien sûr.
C'est compliqué à expliquer, mais très rapidement. Ils ont inondé le marché de masse monétaire. Il y a un accroissement considérable parce qu'effectivement, l'argent était gratuit. En gros, la Banque Centrale Européenne, qui fait les taux directeurs, dirige les taux des banques de dépôt et d'affaires qui vont vous revendre un produit financier ou un crédit avec un taux moins élevé. Le taux directeur était quasiment négatif, donc il faisait des crédits à 0,5%, 1%.
C'est ça.
Donc ça s'est passé. Donc ça a alimenté à mort le marché, ça a augmenté la masse monétaire, et plus il y a d'argent sur le marché, évidemment, moins il y a la correspondance en banque centrale, et plus l'argent est dilué et vaut moins cher. C'est ça le principe de l'inflation. Mmh. Et c'est une dévalorisation de la monnaie. Donc on parle réellement d'inflation. On l'a connu dans les années 30 en Allemagne, par exemple, l'hyperinflation, l'explosion, les billets ne valaient plus rien. Parce que la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie en quoi on doit avoir confiance, Fidus. Donc en substance, ce que tu dis là, c'est l'inflation par la monnaie, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'autre volet de l'inflation qui est une augmentation des prix à cause de
mais elle est spéculative, celle-ci.
Comment
le deuxième volet, il est spéculatif.
Le premier volet, il faudrait que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux directeurs. Problématique qui se pose, c'est que si elle augmente, il y aura moins de crédit, forcément, et ça va ralentir l'activité des entreprises. Donc il y a deux risques, soit la déflation, ou soit une inflation galopante. C'est ou l'un ou l'autre, dans tous les cas, c'est un jeu difficile.
Ou une récession.
La récession, c'est ce qu'on attend, hein, clairement.
Clairement, là, on l'a. Second sujet qui a retenu notre attention, messieurs, vous le savez, c'est la rencontre justement au sommet, c'est l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier Scholz, justement, ils se sont vus, ils ont déjeuné autour, parce qu'il y a des tensions quand même entre l'Allemagne et la France, justement. Au menu donc de ce déjeuner, beaucoup de sujets ont été abordés. Franchement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Macron peut tenter de convaincre l'Allemagne ? Et le chancelier, justement...
Ça va être super compliqué. Ça va être très compliqué. Parce
Philippe
que l'Allemagne a toujours agi... On a toujours parlé du couple franco-allemand, parce que les deux étaient en positif et ils avançaient. Et c'est vrai que mutuellement, c'était une courroie de transmission qui faisait que chacun avait des points de PIB supplémentaires parce que il y avait des échanges entre les deux. Mais là, aujourd'hui, l'Allemagne qui a misé, en tout cas, sur une grande partie sur le gaz russe, les stocks commencent à devenir une situation compliquée. Il faut savoir que la France, en vérité, donne du stock en Allemagne et récupère via une source d'énergie électrique de l'autre côté pour essayer de compenser. Mais l'économie allemande là, commence à ralentir de façon drastique. Et donc, les Allemands, ils voient leur intérêt. Et ça, c'est humain, c'est compréhensible. Sauf que les intérêts de l'Allemagne, sur ce coup-là, ne sont pas les mêmes intérêts que la France. Ne sont même, d'ailleurs, pas les mêmes intérêts que le reste de l'Europe. Et là, là, s'il y avait un frein ou une roue de blocage vraiment entre la France et l'Allemagne, je ne connais pas le scénario, mais il n'est pas positif. Hein.
Il n'est pas positif.
Ah, mais clairement.
Ménade.
Permettez une métaphore, c'est qu'on parle souvent du couple franco-allemand. Alors, en plus, on avait fait des jeux de mots, Merkozy à l'époque, etc. L'Union européenne.
Il a droit à une clochette, lui.
Non, vous allez attendre la clochette. Elle arrive dans deux secondes, la clochette. L'Union européenne, on dit souvent que c'est le couple franco-allemand qui en est sa locomotive. C'est clairement l'Allemagne qui est la locomotive. Et c'est un peu comme, et là, clochette peut-être, Batman et Robin. Sans Batman, il n'y a pas de Robin. Et la France, c'est Robin. Et l'Allemagne, c'est Batman, si j'ose dire.
C'est vrai.
Donc, pardon, mais l'Allemagne, finalement, et Olaf Scholz, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que, il est dans la continuité de ce qui se faisait avant, peut-être de manière plus douce, ou en tout cas plus Merkel dans la méthode.
Ouais.
Là, c'est la méthode Scholz, mais ça n'en reste pas moins qu'une continuité, d'avoir une Allemagne qui va dans son sens, et puis les autres qui essaient de composer autour pour suivre et essayer de garder la cohésion.
Couple franco-allemand n'existe plus.
Il existe, il a toujours existé, sauf que c'est un couple où il y en a un qui décide plus pour les autres que dans d'autres couples où il y a une répartition peut-être des pouvoirs beaucoup plus équilibrée.
Bon, alors qu'est-ce qu'il en pense, mon cher
Gamal Abidar ? Dans le Batman et Robin, je rappelle que le troisième Batman qui a été fait dans le cinéma, qui était magnifique, il finit supposément par mourir à la fin. Ce qui se passe, c'est que ce fameux couple franco-allemand,
en gros, il vient de vous dire
que Robin, c'est les Français, hein, ils ne sont pas industriels là-dessus, ils se débrouillent. Non, il n'y a pas de coup franco-allemand. Il y a eu un coup franco-allemand après la guerre, parce que la France était une grande puissance et que l'Allemagne était émergente. L'Allemagne, maintenant, c'est l'Europe. C'est elle qui décide. La Bouba, la Banque Centrale Allemande, est devenue la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ouais. Tous les standards sont allemands et l'euro a été taillé sur mesure pour l'Allemagne. 2 marques pour 1 euro. Tout est dit. Hein. Alors que nous, 6,57, 956, je ne sais pas quoi, c'est une horreur. Donc la conversion était clairement pro-allemande. Et aujourd'hui, l'Allemagne, alors il faut savoir comment fonctionne l'économie allemande. C'est une économie qui s'est ouverte à l'Est. Une grande partie de son secteur industriel est à l'Est. Mmh. C'est 1500 milliards de dollars d'exportation nette par an. C'est un pays qui est extrêmement excédentaire contre la France, qui est déficitaire de façon chronique. C'est un pays qui apporte toute son énergie, si ce n'est les 50% de charbon qui lui reste.
On est dans des super profils, hein, en Allemagne.
Oui, on était. Il y a un ralentissement. C'est juste les comptes de l'année dernière, c'est fini ça. Ouais. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 150 000 et 200 000 entreprises allemandes qui vont déposer le bilan. Parce que l'Allemagne.
Combien
entre 150 000 et 200 000. On ne sait pas le
beaucoup, hein.
Ben oui, parce qu'il y a tout un environnement microéconomique autour des grosses industries. C'est comme ça que fonctionne l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas délocalisé. Elle a encore une industrie du fer, de l'acier, du charbon. Tout ce qui est transformation, elle a encore, même si elle fait moins de charbon, elle reprend le charbon. Elle a surtout une énorme production industrielle qui est son fer de lance dans sa réussite. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est le pays où il y a le plus de constructeurs automobiles au monde. Mmh. Allemand. Vous rendez compte, hein, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez. Mais ce qui se passe, c'est que l'Allemagne aujourd'hui se fait prendre dans un piège monumental. C'est pour ça qu'on n'entend pas Scholz sur les questions ukrainiennes, parce qu'il est gêné. S'il parle trop, il va se faire désinguer par son pays, parce que les Allemands manifestent avec le drapeau russe. Pas parce qu'ils aiment les Russes. Hein. C'est parce que. Oh, y a eu.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On s'est fait hacker.
C'est le russe.
C'est pas parce qu'ils aiment les Russes, c'est parce qu'ils sont en panique.
Ah, c'est peut-être mon écran alors. Ah, ok, c'est peut-être mon écran alors.
Pas
effectivement. Bon, alors je sais pas ce qui s'est passé.
C'est la première fois que ça arrive, c'est bizarre.
C'est vrai, c'était bizarre. Hein.
Comme par hasard.
Et le mot russe, c'est pas fou. Ouais.
Essayez c'est encore pour curieux.
J'ai rien touché. Non, c'est pas moi. On va dire Ukraine, boum, ça saute.
Alors, dites-moi.
Ce qui se passe, c'est pas parce qu'on.
Désolé, les amis auditeurs, je ne sais pas. Anthony, il était en panique, Anthony, le réalisateur.
J'ai bouton, j'ai
pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait.
Il a vu son contrat de travail se faire annuler immédiatement. Moi, j'avais le stylo.
Mais il fallait le voir, il a fait les mains. Bah, l'air. J'ai rien fait, c'est pas moi.
Il y a pas de police. Donc,
alors, allez-y.
Ils sont pas pour russes, ils ont peur pour l'économie, puisque l'Allemagne a fondé tout son développement à l'Est, je l'ai déjà dit, mais pas seulement. Elle a fondé tout son approvisionnement, mais quasiment tout, 40 à 50% de ses besoins énergétiques, par exemple le charbon, 50%, pétrole, gaz, c'est la Russie. Et le Nord Stream 1 et 2 qui viennent d'être sabotés, on sait par qui, c'est les Américains, c'est évident, il faut les moyens pour le faire. Eh bien, ça leur coûte très cher. Ça a coûté 10 milliards la construction du Nord Stream 2. Donc aujourd'hui, l'Allemagne est en danger de mort, littéralement. Et je vous
danger de mort économiquement ?
Clairement. Et je vais vous raconter une histoire qui est incroyable, c'est cette répétition de l'histoire. En 1922, les chemises brunes montent à Rome avec Mussolini à sa tête. En 2022, on a une mussolinienne au pouvoir en Italie. Mmh. On a une extrême droite, Orban, en Hongrie. On a une Allemagne dont l'économie entend s'effondrer à vitesse grand V, à cause de ce qui se passe à l'Est, encore une fois. Et avec, à l'époque, il y avait 6 millions de chômeurs. On va vers cette direction-là. Donc, on est dans un pays qui était fort à l'époque, l'Allemagne. C'est pas un pays d'incapables. Ils avaient déjà une grosse industrie. C'est-à-dire que tout le scénario du XXe siècle semble se répéter. Avec Est-Ouest qui se remettent en place, avec d'un côté les communistes qui deviennent...
Donc, finalement, il est contraint de s'entendre avec Emmanuel Macron.
Non, pas du tout. Il veut faire cavalier seul parce qu'il est en galère. Macron, il est en train de faire un double jeu. Il joue la fermeté face à Poutine et en même temps, il alimente la guerre. Donc, et il fait semblant d'avoir un cordon ouvert. C'est pas ce que fait Scholz. Ça fait 6 mois, vous l'avez entendu. Il dit pas un mot. Parce qu'il y a danger pour sa maison aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, simplement pour conclure mon propos, excuse-moi Philippe, simplement pour dire aujourd'hui, la seule solution viable pour que l'Europe sorte de la catastrophe, parce que l'Allemagne, c'est l'Europe. L'Allemagne et l'Italie, c'est deux puissances industrielles. L'Italie s'en est bien tirée avec l'Algérie, ils ont réussi un bon coup. Mais il n'en demeure pas moins que si on veut que l'Europe ne s'effondre pas, il faut absolument que cette guerre s'arrête. C'est le seul moyen.
Ménade. Et ensuite, Philippe Nadji Bouriaki.
Oui, et puis au passage, alors juste, je vais pas rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, mais un point, peut-être remercier très ironiquement les Grunes, les Verts allemands, qui en 2011 ont utilisé l'argument de Fukushima pour entraîner le pays dans une politique anti-nucléaire. Donc on se rabat sur quoi ? On se rabat sur le charbon, sur le gaz, enfin sur tout ce qui fait davantage de mal à notre planète que le nucléaire. Alors moi je suis fermement pro-nucléaire pour le coup, je m'en parlais avec tout le monde, mais ça aussi, les conséquences de ça, on les voit aujourd'hui, c'est que naturellement, on était dépendant du gaz, on était dépendant d'autres énergies fossiles, et ça fait que l'Allemagne aujourd'hui doit prendre des décisions, parce que quelque part, on peut lui en vouloir, mais on peut aussi le comprendre. L'idée, c'est que, comme tout le monde, ils passent l'hiver, hein, nos amis allemands, je parle du peuple, hein, faut aussi penser, ils sont comme nous, quelque part, ils ont besoin de chauffage en hiver, et c'est les conséquences d'une idéologie, je vais essayer de mesurer mes mots, mais bête et méchante, pour dire les choses gentiment et pas me prendre une cloche, qui fait que une décision en 2011 a des répercussions en 2022 parce qu'elle a été prise sur un simple critère idéologique et absolument pas sur un critère ni pragmatique, ni géopolitique, ni dans l'intérêt de l'humanité.
Mais c'est une réalité.
Ouais.
Mais attends, mais moi j'étais sur un courant minoritaire à Europe Écologie Les Verts où je leur disais effectivement on a un souci avec les déchets nucléaires, mais les nouvelles centrales comme Superphénix, etc., au contraire, ils peuvent alimenter pour 2000 ans, hein, 2000 ans avec les déchets nucléaires, mais surtout il faut aller vers la fission nucléaire qui elle n'émet aucun déchet. Et évidemment avec tous les garde-fous qui vont bien avec sûr, etc. Mais je fais confiance aux scientifiques et j'étais vraiment dans un courant minoritaire où on me disait nous on est dogmatique là-dessus, c'est contre nucléaire, contre nucléaire, contre nucléaire. Sauf que si tu enlèves le nucléaire, il te reste quoi? Effectivement, il faut passer au mix énergétique, évidemment.
Oui.
Mais je vais vous donner un truc très simple. Là en ce moment, on entend parler des poêles à bois, etc. Ou même on va sur la biomasse. Vous savez qu'il faudrait même si on utilisait toutes les terres agricoles en France, y compris toutes les forêts, on n'aurait pas assez pour électrifier, par exemple, ou électrifier tout le parc automobile. On n'en a pas assez. Je veux juste qu'on regarde bien les choses en face. C'est pour ça que nous, sur l'écologie au centre, et je m'y retrouve complètement, on est vraiment dans une situation pragmatique où on dit, c'est soit on fait un choix, et moi je suis pas pour le choix de tout électrique sur les batteries, et là on a le maire qui nous dit, ouais, c'est bon, on a du lithium. Je rappellerai qu'il faut aussi du silicium, mais ça c'est pas quelque chose de naturel, mais il faut aussi du cobalt et d'autres matériaux que nous n'avons pas en France, qu'aujourd'hui les batteries sont en train de être construites en Chine, donc on est complètement dépendant de la Chine. Une nouvelle dépendance, et en plus il faut transformer toute l'industrie.
Avant de marquer justement, c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, non mais c'est l'enjeu de demain.
C'est l'enjeu de même
d'aujourd'hui. Mais... Gamal Abidal, finalement, donc une économie qui s'effondre, l'Allemagne évidemment qui risque de c'est la descente aux enfers. Est-ce quelle entente finalement entre Macron et le chancelier Scholz justement?
Le problème, c'est qu'il y a des rapports d'État à État. Je félicite d'ailleurs Philippe pour sa position, parce qu'elle est courageuse. Hein. Ce n'est pas forcément clair de prôner le nucléaire aujourd'hui. Et il a raison. Je veux dire, le bilan énergétique en termes de pollution, c'est zéro, le nucléaire, il faut être très honnête. La question qui se pose, c'est est-ce que ces deux hommes sont là?
Elle va faire cavalier seule, l'Allemagne?
Elle est obligée.
Elle est obligée.
Parce qu'ils peuvent encore discuter avec l'Italie. La France est un concurrent qui se frotte les mains de ce qui arrive en Allemagne. Ça a toujours été un concurrent parce que la France c'est 2700 milliards de PIB, l'Allemagne c'est 3800. Donc déjà, vous imaginez le rapport. La France, quand elle a vu l'Angleterre dégager, elle a applaudi de deux mains et ils ont foutu dehors encore plus vite que possible. Et c'est en cela que je dis qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est le chacun pour soi et ça va coûter parce que c'est l'Allemagne la locomotive de l'Europe, indiscutablement. Si l'Allemagne chute, l'Europe chute.
Donc c'est la fin de la guerre.
La fin de la guerre sera la solution. Oui, bien sûr, c'est la seule solution possible.
On se retrouve dans une poignée de minutes, justement. Ne restez avec nous, justement. On va parler, direction, vous parlez de grand Royaume-Uni. On va y aller au Royaume-Uni, justement, avec ce tout nouveau Premier ministre qui a été nommé, qui s'appelle donc M. Sunak Rishi, et qui est d'origine indienne. On va en parler. L'enjeu, symbole, et puis évidemment, ce qui attend le Royaume-Uni. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Déjà la dernière ligne droite, vous vous rendez compte? Les informés avec Philippe Nadjibouriaki, les informés avec Mena Adouchenir, et enfin les informés, c'est avec Gamal Abina, 19h23, dans quelques secondes, dans 10 secondes précisément. Nous allons parler, vous savez quoi, direction au Royaume-Uni, avec cette toute nouvelle nomination, Rishi Sunak, qui débute à peine son mandat. Ça y est, il a pris possession de l'habit, vous savez, du Premier ministre. Alors, justement, tout un symbole, diront certains, et puis aussi un enjeu économique qui l'attend. Gamal Abina.
D'abord,
sur le symbole, dans la symbolique d'abord.
On va commencer. Deux grandes dirigeantes.
42 ans, le plus jeune.
Oui, c'est pour ça que là, vraiment, ça claque à tout point de vue. Deux grandes leaders de l'Angleterre qui étaient des reines, je rappelle, que ce soit Victoria, pour laquelle je n'ai pas de sympathie, ou la dernière reine, mère qui est morte, dirigeaient l'Angleterre de façon symbolique. Ensuite, trois femmes premières ministres. Ensuite, un maire de la plus grande cité financière au monde, quasiment la City, qui était d'origine pakistanaise, donc. Et pour finir, ce nouveau Premier ministre, nommé cette fois-ci, non pas élu, qui effectivement a 42 ans, donc très jeune, d'origine du Punjab, donc un Indien, qui arrive à la tête de l'État dans une situation un peu difficile, mais dans tous les cas de figure, il est arrivé. Ça dit des choses sur la tolérance par rapport aux femmes, la tolérance par rapport à la jeunesse, la tolérance par rapport aux étrangers. À tout point de vue, l'Angleterre a des leçons à donner à la France. Et moi, j'ai envie de dire simplement, même si je ne le connais pas particulièrement, c'est un héritier par son mariage, une immense fortune, fortune. Il a lui-même fait fortune. Il est plus riche, dit-on, que le roi d'Angleterre, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'Angleterre donne des leçons à la France de façon radicale. Et qu'est-ce que c'est que cela ? C'est ce que toute l'extrême droite déteste, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Je dis toute l'extrême droite parce que les nazis combattaient déjà le multiculturalisme et qu'aujourd'hui, en France, quand vous dites que vous êtes pour la diversité, on vous répond multiculturalisme. Il faut se poser les bonnes questions.
Il faut se poser les bonnes questions, effectivement. Mélade.
Il a été effectivement élu chef du Parti conservateur.
C'est possible ça en France d'ailleurs ? Non.
Conservateur, c'est la droite. Hein.
Ouais. Non, mais en France, c'est possible d'avoir quelqu'un issu de la diversité. Alors,
justement, moi j'y viens parce que c'est pas directement le choix du peuple anglais. C'est peut-être moi aussi, c'est la question que je posais sur les démocraties anglo-saxonnes, hein, comme on peut avoir aux États-Unis, très indirect. Et là aussi, c'est le chef du Parti conservateur qui, du coup, étant le parti majoritaire, est mécaniquement, si j'ose dire, nommé Premier ministre. Donc il a des mérites absolument pas, puisque pour conquérir la tête du Parti conservateur, je pense qu'il a fallu déployer pas mal de génie politique, hein, on peut le dire comme ça, et aussi, disons-le également, c'est un banquier, donc qui est quelqu'un, finalement, qui a l'habitude de discuter, négocier, voguer dans la politique côté business, mais du coup, et la politique aussi au sens plus strict du terme, et qui est arrivé là. Donc, moi, je pense que c'est pas un Indien qu'on a nommé Premier ministre, c'est un type brillant, avec une carrière, et qui aurait pu être Indien, qui aurait pu être d'origine, je ne sais quoi, hongroise, africaine, mais pour moi, ce focus, un peu comme le maire de Londres, d'ailleurs, à l'époque, j'avais vu un bandeau sur une chaîne info que je n'aimerais pas, le maire musulman de Londres, mais à un moment donné, les gars,
c'est vrai qu'on dit pas le maire musulman.
Non, mais voilà, et donc dire le premier ministre indien du Royaume-Uni, c'est une connerie. C'est le premier ministre du Royaume-Uni.
Vous savez qu'en Angleterre, on parle pas comme ça. On dit pas Sunak d'origine indienne. Hein.
Absolument.
Il n'y a pas de ça entre.
Il n'y a pas de sujet.
Là-bas, c'est,
donc,
il est anglais. Ça,
en l'occurrence,
voilà, il est anglais, stop, basta.
Il a peut-être des racines.
Il
n'y
a pas d'origine, etc. Il est anglais.
Mais je vais reprendre ce que disait Jean-Louis Borloo, que je salue. C'était que nous sommes tous issus de l'immigration, c'est seule la date d'entrée sur le territoire qui change. Donc lui, elle est relativement récente par rapport à d'autres. Mais si on faisait un peu de généalogie de ses prédécesseurs, je suis à peu près sûr qu'on trouverait des gens d'un peu partout.
Vous vouliez être méchant, pourquoi ?
Non, je voulais être méchant parce que c'est vrai que là, tu es en train de relativiser la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on a vu en Angleterre, dans un parti conservateur, donc de droite, qui est censé être le conservatisme, c'est quand même garder les valeurs d'origine. Et bien cet homme qui, donc, le père est étranger, hein, il est né à l'étranger, ouais. Il est né, lui, en Angleterre, et bien cet homme-là, il a quand même un marqueur identitaire qui est clair, le nom est clair, il est étranger. Et en France, on a eu l'équivalent à droite, Bégag, ils n'ont jamais pu monter, alors que c'était des gens qui étaient extrêmement, je parle surtout Bégag, qui était un homme d'affaires, un industriel, pour autant sa qualité n'a pas pu dépasser son physique et son origine. Parce qu'en France, on juge les gens non pas.
Rachid Hadati en France.
Ah, non, ça s'appelle le Parti conservateur, on pourrait le comparer aux Républicains,
oui,
c'est un peu ça. Hein.
C'est une nomination.
Non,
c'est
ça, hein. j'ai même un autre nom, pardon, mais
c'est les Républicains chez nous.
Prenons le parti le plus à droite. Bardella, c'est de quelle origine ?
Ça compte pas l'Italie. Faut être
non, mais le Parti conservateur, tu peux pas le comparer à Bardella. Mais non, c'est plutôt le Parti républicain.
C'est quand même quelqu'un qui a des racines qui sont
italiennes,
non françaises.
Donc peut-être nos fascistes et tout. Y a pas
non, je disais le Parti conservateur, si on peut le comparer, c'est plutôt les Républicains chez nous ici.
Oui, mais justement, par rapport à ça, là, ils viennent de nommer Dati. Dati, c'est juste pour la déco, c'est Sarkozy qui utilisait pour montrer.
Ministre de la Justice, c'est pas rien, quand même.
Non, si, c'est rien. Moi, je parle de la tête. Non, on parle de la tête d'institution.
Députée européenne, maire du 7e arrondissement.
Maire de
Paris, elle est passée du.
C'est pas de la déco. Parlez-moi de Fadela Amara, parlez-moi de gens comme ça. Non, parlez pas de Rachida Dati.
À 52% dans le 7e, elle est passée de justesse. Elle ne pouvait pas perdre, c'est le 7e qui est donc.
Mais elle était nue. Bon,
attends, c'est important. Ils sont nommés, pas élus, d'accord ? À part Dati sur le 7e, parce que c'était imperdable. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose importante quand même. Je parle de postes très importants. La tête de l'État anglais ou la tête de la plus grande ville d'Angleterre. Est-ce qu'à Paris, on verra un type issu d'immigration à la tête de.
Ouais.
Je parle d'une africaine.
Non, parce que j'allais dire un Hidalgo à un moment.
Africaine, pas espagnole, pas italienne, africaine.
Attends, ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, effectivement, c'est assez culturel. Et d'ailleurs, il est anglais, il n'est pas indien, il n'est pas. Il n'y a qu'en France où on parle de ses origines. Je pense que dans 20 ans, en France, on aura. La même chose.
Aucune chance.
Bien sûr que si.
Ça fait 100 ans qu'on est en France.
Si. Attends, Gamal, je t'ai pas interrompu, s'il te plaît.
T'en prie.
En France, dans 20 ans, on aura un premier ministre français.
Vous êtes convaincu ?
Je suis infiniment convaincu parce que aujourd'hui, il y a un sursaut. Tu sais, il s'est passé quelque chose la semaine dernière à Astin. Astin. On a été 15 jours après que l'Action française est venue montrer sa haine et son fascisme dans la mairie d'Astin pour invectiver et insulter Azin Staibi et le conseil municipal. En réaction avec Adèle et les autres, nous sommes venus faire une surprise à Azin Taibi. On était plus d'une centaine d'élus de droite, de gauche, de quartier populaire, de blanc, de black, beurre, tout ce que tu veux. Et je pense que c'est l'électrochoc qui s'est passé. Maintenant, ça suffit. On est ici chez nous, que ça leur plaise ou non, on est ici chez nous. On partira d'ici que les pieds par devant. Donc à eux de choisir. Soit ils nous acceptent et tant mieux pour eux, soit ils ne nous acceptent pas et on va faire sans eux. Et donc, par conséquent, dans 20 ans, oui, on vivra ça en France.
Parce que ça fait 100 ans qu'on est en France.
Mais parce que.
Rapidement, s'il vous plaît, rapidement.
Ça fait 100 ans que les Algériens, pour prendre les.
Mais non, mais nos parents n'étaient pas français.
Ça fait 100 ans que les Algériens sont arrivés en France et sont devenus français en 58. 100 ans qu'on est là. Lui, en une génération, il est nommé au plus haut poste de l'Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que la problématique.
C'est pas une génération, là. Ah oui, lui. Mais sinon, les Indiens, ils sont plus en génération.
Là,
on parle de quand même 4-5 générations.
Je voulais juste dire une chose importante. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Je vais déporter le sujet parce que j'y tiens beaucoup. Dans une semaine, le 1er novembre, il va y avoir. C'est un ami qui s'appelle donc. Je suis fatigué, Rachid Korachi a fait une sculpture pour rendre hommage aux Algériens massacrés le 16 octobre. Ça va être inauguré le 1er novembre au parc de la Courneuve. J'invite tous les auditeurs à aller à ce parc-là le jour de l'inauguration. Ça va être un grand événement.
Rappelez-nous la date.
Le 1er novembre. Et c'est une statue.
À quelle heure
Je crois que c'est le matin, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. C'est une statue qui fait 3,80 m de haut.
Ça vaut le coup d'aller le voir, effectivement. Là. Merci pour l'info. Merci à Gamal Abina. Merci à Mélade Ochenir. Merci à Philippe Ladjiboria qui a la réalisation. C'était Anthony. À demain avec autant de plaisir. Je me suis mis en retard. Ciao, ciao. Mais surtout,
on ne lâche rien.
On ne lâche rien, ciao. Jamais.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.